RTS La Première présente Mystifica Science, saison 2. Un podcast de CQFD qui s'intéresse aux grandes impostures scientifiques. Avec l'agente Leslie et Adrien Zerbini. Et pour cette deuxième saison de Mystifica Science, l'agente Leslie s'intéresse à un type de mystification bien particulier, le doute. Le doute est à l'origine même de la science. Dans toute recherche scientifique bien menée, on se pose une question et on tente d'y répondre le plus humblement possible avec une prudence et une circonspection scientifique. Mais depuis le milieu du XXe siècle, et avec des intérêts bien particuliers, une partie de la science a été produite à dessein pour générer du doute. Le cas le plus documenté est celui par lequel toute cette histoire commence. Un écran de fumée de cigarettes.
Nous sommes au Plaza Hotel de New York, le 15 décembre 1953. Je ne sais pas si vous avez vu déjà cet hôtel très spécial,
Non ? Je crois pas, non.
Une architecture de château français de la Renaissance, mais sur 15 étages. Bref, les salles de réunion y sont monumentales et la réunion qui a lieu en ce 15 décembre est aussi assez imposante. Les présidents des 4 plus grosses compagnies de tabac des États-Unis sont là. Et c'est la crise. Face à eux, John Hill, le PDG d'une des plus influentes entreprises de relations publiques. Ensemble, ils décident de créer le Comité de l'industrie du tabac pour la recherche. Ce que, bien des années plus tard, la justice américaine nommera un comité dont l'objectif était de tromper le public américain sur les effets du tabagisme sur la santé.
Et alors pourquoi est-ce que ça a lieu en décembre 1953 précisément?
Ah ouais, je vous l'ai déjà dit, c'est la crise. En fait, quelques jours plus tôt, des chercheurs d'un institut de recherche de New York ont publié une étude qui démontre que le goudron de cigarette étalé sur la peau de souris produit des cancers. Et cette étude a beaucoup intéressé la presse nationale. Le cancer lié à la cigarette est devenu un sujet de discussion viral. Dans une Amérique où presque la moitié de la population adulte fume.
Ça signifie donc qu'avant 1953, on n'avait jamais fait le lien entre tabac et cancer?
En effet, les premières études sérieuses sur le sujet remontent aux années 30. Hein. Mais c'était des études allemandes. Et après la guerre, tous les travaux scientifiques allemands étaient jugés suspects, car potentiellement liés aux nazis. Mais là, en 1953, ce sont des chercheurs américains qui ont publié une étude sérieuse. Et ce n'est pas bon du tout pour le commerce du tabac. Revenons donc à cette réunion extraordinaire à l'Hôtel Plaza. Face aux 4 puissants présidents de l'industrie du tabac, ce fameux John Hill propose à l'industrie de travailler ensemble pour financer des recherches scientifiques et médicales. Des recherches qui permettront d'émettre des doutes sur le lien entre le tabagisme et le cancer.
Bon, moi, il y a une chose que je me demande, c'est comment est-ce qu'on peut faire une étude pour démontrer une absence de lien?
Oui, je vois. Ce qu'on fait en réalité, c'est de chercher les liens entre le cancer du poumon et d'autres choses que la cigarette, comme par exemple, je ne sais pas, le stress ou les prédispositions génétiques. Et c'est ce type de recherche que l'industrie du tabac va très largement financer durant de longues années. Ce que certains appelleront de la science de diversion.
Diversion, un peu comme un prestidigitateur qui détourne l'attention des spectateurs. Non. Et alors, ce fameux comité de l'industrie du tabac pour la recherche, est-ce qu'il finance finalement des recherches bidons?
Non, pas du tout. Il s'agit même parfois d'excellentes recherches. Et d'ailleurs, on sait aujourd'hui que, par exemple, les prédispositions génétiques jouent un rôle très important dans certains cancers. Mais justement, le premier but de ces recherches était de dire, Vous voyez, il y a beaucoup de facteurs différents qui entrent en ligne de compte dans le cancer. On n'a pas la preuve que la cigarette soit directement impliquée dans le cancer.
Mais alors là, il y a deux phrases qui sont un peu différentes. La première chose, c'est de dire qu'il y a différents facteurs. Et la deuxième, c'est de dire qu'on n'a pas de preuve que la cigarette soit liée au cancer. Parce que justement, là, en 1953, on a la preuve.
Vous avez raison dans l'absolu. Ce sont deux idées différentes. Mais un expert n'aura aucun problème à mélanger ces deux idées. Et ça, c'est le deuxième but de l'industrie du tabac lorsqu'elle finance des chercheurs. Disposer d'experts, disons, bien disposés.
C'est quoi alors des experts bien disposés?
Dès 1954, aux États-Unis, des citoyens malades vont intenter des procès à l'industrie du tabac. Et dans ces tribunaux, il faudra que l'industrie fasse témoigner des scientifiques, des experts qui expliqueront que le lien de cause à effet est incertain, qu'il y a de nombreux facteurs impliqués dans le cancer, et ces experts seront forcément motivés à bien faire le travail si l'industrie qu'ils défendent finance leur recherche, n'est-ce
c'est
pas
logique, hein? Oui.
Voilà. Ainsi, durant de très nombreux procès, le doute bénéficiera à l'industrie du tabac. Car chez les juges, comme chez chacun d'entre nous, quand le doute a germé dans notre esprit, aucune certitude ne résiste.
Par ailleurs, même aujourd'hui, ça reste délicat de déterminer la cause exacte de telle ou telle maladie.
Oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, c'est l'un des leviers favoris des marchands de doute. En fait, l'esprit humain ne comprend pas toujours bien le principe de causalité. Si l'on dit que fumer cause le cancer, alors on croit que, nécessairement, si l'on fume, on aura un cancer. Mais la réalité est plus complexe. Seules les statistiques permettent de démontrer, par exemple, qu'un fumeur sur deux mourra d'une maladie conséquente à sa tabagie. Ou encore que les fumeurs ont un risque multiplié par 20 d'avoir un cancer de poumon face à un non-fumeur. À l'échelle de l'individu, il n'y a jamais de certitude sauf celle de l'augmentation d'un risque. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé considère que le tabagisme est la cause probable de 25 maladies différentes, responsable de 5 millions de morts chaque année. Donc, environ 50 depuis le début de notre discussion, mais c'est incroyable.
Comme le révèlent Naomi Oreskes et Eric Conway dans leur ouvrage « Les marchands de doute » aux éditions Le Pommier, l'industrie du tabac, qui s'inquiétait énormément de ce lien établi entre le tabac et le cancer en 1953, a également décidé de rencontrer tous les grands directeurs de médias américains pour leur faire passer ce fameux message. Nous avons des doutes sur ce lien. Et de nombreux scientifiques, dont nous avons une liste à disposition, ont également des doutes. Le plus intéressant, c'est que l'industrie du tabac a donné une sorte de leçon de déontologie aux journalistes en leur disant ceci. Si vous faites un sujet pour parler du lien entre le tabac et le cancer, vous devez accorder un temps d'antenne comparable aux chercheurs qui, comme nous, doutent de ce lien. Cette stratégie sera utilisée par presque tous les semeurs de doutes par la suite. Pourtant, le journaliste n'est pas là pour donner la parole aux uns et aux autres équitablement. Il est là pour chercher la vérité. Autrement dit, si Monsieur A dit qu'il fait beau et Monsieur B dit qu'il pleut, le boulot du journaliste est d'aller voir le temps qu'il fait plutôt que de donner un temps de parole équitable à A et B. En l'occurrence, le lien entre cancer et tabac était déjà en 1954 une vérité établie.
Vous vous posez peut-être une question. Est-ce que les dirigeants de l'industrie du tabac étaient de bonne foi lorsqu'ils disaient qu'il subsistait un doute, que finalement ce lien entre tabac et cancer n'était pas absolument certain? La justice américaine a répondu à cette question lors du procès qui a déclaré coupable l'industrie du tabac d'après l'ordonnance RICO, la loi relative au contrôle de crimes organisés. Selon les documents saisis, notamment dans le bureau de ce cher John Hill, le maître à penser de cette stratégie de la science de doute, dès 1954, il était bien question de combattre les faits, de créer volontairement du doute. On retrouve noir sur blanc cette notion dans un document de travail de l'industrie du tabac daté de 1969. Smoking and Health Proposal.
Donc en français, ça donne quelque chose comme proposition sur le tabagisme et la santé.
Oui, exactement. Oui. Dans ce document interne à l'industrie, on peut donc lire, je cite, « Notre produit est le doute, car c'est le meilleur moyen de contrer l'ensemble des faits qui existent dans l'esprit du public. »
L'ensemble des faits qui existent dans l'esprit du public. C'est une formulation assez bizarre, ça, non ?
Ah, mais comme vous dites, c'est presque la rhétorique. Les faits existent ou ils n'existent pas. Et, en l'occurrence, ils existent. Un autre document interne à l'industrie est intéressant. C'est en réalité le compte-rendu d'une conférence de « recherche », entre guillemets, de la compagnie anglo-américaine du tabac. En conclusion, il dit que le lien entre tabac et cancer, et je cite, « a depuis longtemps cessé d'être un sujet de controverse scientifique ».
Bon, alors ça, c'est très clair. Oui, très clair. Comment vous êtes-vous procuré tous ces documents ?
Pour une fois, je peux vous citer ma source, car elle est publique. Il s'agit de la collection multimédia de la Legacy Tobacco Documents Library à l'Université de Californie à San Francisco. Elle contient plus de 7500 documents écrits, audio ou vidéo, de l'industrie du tabac. C'est aujourd'hui une mine d'or pour les chercheurs. Des documents qui ont été récoltés à la suite des différents procès qui ont eu lieu dès 1999 aux États-Unis.
Bon, mais moi, ce qui me paraît assez fou, c'est que pendant presque 50 ans, cette stratégie du doute semble avoir parfaitement fonctionné.
Absolument, vous avez raison. Et pour que ça fonctionne aussi longtemps, l'industrie du tabac a appuyé sur l'accélérateur dès 1979.
Appuyé sur l'accélérateur, c'est-à-dire ?
Vous vous souvenez de la grande réunion de crise de 1954.
Dans ce grand hôtel de Renaissance.
Exactement. Eh bien, en 1979, une nouvelle réunion du même type est organisée. Les dirigeants de l'industrie sont invités par l'ancien président de la compagnie R.J. Reynolds, ou R.J.R. pour les intimes. Mmh. Et l'ancien boss de R.J.R. n'est pas venu seul. À ses côtés, il y avait une sommité, le physicien Frederick Seitz.
Alors, vous allez excuser mon inculture, mais moi, je ne connais pas votre sommité, ce Frederick Seitz.
Mais c'est un brillant physicien. Ayant étudié à Princeton, il a participé ensuite au projet Manhattan, la conception de la première bombe nucléaire. Et puis, dès 1959, Seitz devient conseiller scientifique de l'OTAN. Et là, il gravit le plus haut échelon de la politique américaine. Dès 62, il préside l'Académie des sciences aux États-Unis et en 68, il devient le président du plus important centre de recherche en biologie, l'Université de Rockefeller.
Alors, comme vous dites, c'est une sommité, maintenant j'ai bien compris. Par ailleurs, c'est assez étonnant qu'un physicien dirige un centre de recherche en biologie, puisque vous parliez de l'Université de Rockefeller.
Oui, c'est pas faux, mais en même temps, c'est une sommité. Alors, c'est chic pour un prestigieux centre de recherche d'être dirigé par un grand monsieur. Ce qui est beaucoup plus étonnant, en revanche, c'est de retrouver ce personnage dans cette conférence de l'industrie du tabac en 1979. Et ce que va annoncer le boss de RJR, c'est incroyable. Frederick Seitz, qui a alors 68 ans, entendons-nous bien, l'âge de la retraite pour ses fonctions académiques.
Donc ce grand monsieur,
et
voilà.
Ce grand monsieur, oui, vient d'accepter un nouveau poste. Diriger un programme de financement de recherche biomédicale doté de 45 millions de dollars pour les 6 premières années.
ce qui en 1979 était un montant encore plus colossal qu'aujourd'hui si on le remet à l'échelle du jour. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce programme de recherche, puisqu'on parle là de l'industrie du tabac, donc est-ce que c'est la suite du comité de l'industrie du tabac pour la recherche?
Si vous voulez, mais c'est officiellement pour le compte de la RGR que ce programme va être créé, même si les autres entreprises du tabac seront évidemment invitées à les financer.
Bon, mais alors pourquoi ce grand monsieur, comme vous dites, Fred Zeitz, a-t-il accepté cette étrange proposition?
C'est une très bonne question et vous allez découvrir que l'on va retrouver ce grand monsieur dans différents dossiers par la suite, utilisant les mêmes stratégies pour décréditer, par exemple, le trou dans la couche d'ozone ou même le réchauffement climatique. On aura donc le temps de revenir sur la psychologie et les motivations de ce personnage. Mais ce qu'il a dit par la suite, lorsque l'industrie du tabac a dû s'expliquer face aux tribunaux, c'est qu'en 1979, alors qu'il venait de présider pendant des années l'Université de Rockefeller, il était redevable à l'industrie du tabac qui avait financé de très nombreuses recherches.
Mmh. Par ailleurs, j'imagine que Fred Zeitz n'a pas dirigé ce programme dont on parle là bénévolement. Et puis, distribuer 45 millions de dollars pour financer la recherche, ça vous donne forcément un certain pouvoir.
Et c'est certain, Zeitz aime le pouvoir. Dès mai 1979, il engage plus de 4 millions pour soutenir les projets de recherche. Détail intéressant, il n'est pas seul maître à bord. Avant de financer un projet, il doit le faire valider par le service juridique de son employeur, RGR. À quoi sert cette validation du service juridique? À s'assurer que les chercheurs financés mènent bien des recherches utiles à l'industrie, donc susceptible de créer un doute et de transformer d'honnête scientifique en expert potentiel, le moment venu.
Mmh. Vous parlez d'honnête scientifique, mais en somme, est-ce que tous les scientifiques ont accepté d'être financés par un programme soutenu par l'industrie de la cigarette, en l'occurrence RGR?
Non, certains ont refusé. Mais on n'a pas de chiffres précis, sauf pour certaines bourses où on sait qu'environ 3% des institutions refusaient systématiquement l'argent de l'industrie du tabac.
3%, ça n'a pas l'air énorme.
Oui, c'est assez triste, oui. Mais comme vous dites, mais d'une part, il faut rappeler que quand vous êtes chercheur, vous avez besoin de financement pour survivre. Mmh. Et d'autre part, les recherches qui étaient sélectionnées par Fred Zeitz n'étaient pas dénuées d'intérêt. Par exemple, le rôle des émotions sur les maladies somatiques. Voyez, c'est intéressant, non?
C'est vrai.
Eh bien, c'est l'un des programmes de recherche qui a été sélectionné et richement doté.
Alors, c'est intéressant, comme vous dites, mais ça peut éventuellement servir à nourrir la controverse sur le lien entre cigarettes et cancer, c'est ça?
Voilà, vous avez compris le principe. Et pour vous donner un ordre d'idée, en 1981 aux États-Unis, la Société américaine du cancer et l'Association américaine du poumon ont consacré ensemble environ 300 000 dollars à la recherche. Cette même année, l'industrie du tabac, un peu plus que 6 millions, soit 20 fois plus.
D'accord.
En clair, les semeurs de doute étaient de modestes artisans dans les années 50, passés à l'échelle industrielle dans les années 80. Et finalement, on peut dire qu'ils ont fait perdre pour 50 ans à la compréhension claire dans l'esprit du grand public des risques sanitaires liés au tabac. Mais comme je vous le raconterai bientôt, les semeurs de doute n'en étaient que à leur début. La cigarette ne fut que leur premier combat.
Cet épisode de Mystifica Science a été imaginé et écrit par Adrien Zerbini. Réalisation Yves Roulin. Mystifica Science est un podcast de la RTS. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast.
Et parmi ces épisodes, il y a celui qui parle de l'hiver nucléaire et de la guerre des étoiles.